Regard sur la guerre d'Indochine. Voyage au pays des routes contraires. Lettre écrite par Pierre Stepowski, ancien combattant de la guerre d'Indochine.
Hanoï, 1946. Saïgon, la perle de l'Orient. Saïgon, faut-il le dire, nous avait déçus dès son premier contact. Ville très neuve, aux perspectives savamment établies, au building modern style, nous lui avions trouvé un air par trop européen. Pour notre premier contact avec l'Indochine, cela n'avait aucun cachet asiatique. Hanoï, au contraire, a su rester très indochinois. Avec son quartier indigène, mi-chinois, mi-tonkinois, son grand lac majestueux, son petit lac aux reflets doucement nacrés, son gigantesque fleuve rouge. C'est vraiment la ville au milieu des eaux, comme l'a si justement chanté le poète annamite. Il y a aussi les couchers de soleil sur le petit lac, bijoux d'eau dormante et de verdure, avec ses pagodons si curieux, pagode du pinceau voué au littérateur, pagode des supplices, curieux pays où les lettres et la barbarie sont vénérées côte à côte. Les charmantes pâtisseries chinoises, les temples bouddhistes aux sculptures en forme de dentelle, les jonques et les sampans du fleuve rouge aux voilures si compliquées. Les annamites avec leurs grands chapeaux coniques et leurs sandales de bois laqué qui claquent sur le sol avec un bruit de castagnettes.
Le 6 janvier 1946. Mes chers parents, je viens de recevoir votre bonne lettre du 16 décembre 1945. C'est la première depuis mon arrivée ici. Je suis heureux de vous savoir tous en bonne santé, si ce n'est Antoine et Bernard, mais j'espère que leur rougeole et mal aux pieds sont maintenant de l'histoire ancienne. Il continue à faire une température idéale, chaude, c'est certain, mais sans excès. Il ne pleut pour ainsi dire pas. Il y a un peu d'humidité, mais seules les soirées sont un peu lourdes. Mon logement, hélas, probablement provisoire, est spacieux et bien conditionné. C'est un genre de paillote moderne où quelques camarades et moi sommes réunis. Quant au ravitaillement, il est très bon, riche, suffisant et varié. Nous avons un excellent mess. Et il y a en ville des fruits à profusion et à des prix raisonnables. Au bureau, je suis actuellement sur la piste d'un emploi très intéressant et qui me servira par la suite en France, je l'espère. Mais comme ce n'est pas absolument certain, et que j'ai eu l'habitude de ne pas confondre mes rêves avec la réalité, je me contente du travail que j'ai pour l'instant, et qui n'est pas ennuyeux d'ailleurs. Je suis secrétaire adjoint d'un lieutenant-colonel. Mes camarades de bureau sont en général d'excellents bonhommes, et j'ai une bonne bande de copains. Durant mes moments de loisirs, je lis beaucoup. Il y a aussi une bibliothèque fort bien achalandée. Joue un peu au ping-pong, et déambule souvent dans les rues de la ville, au marché en particulier. Le coin le plus curieux est certainement le marché, où l'on vend et achète de tout, qui s'étale pendant la moitié du jour dans la moitié de la ville. Il y a des annamites, bien sûr, des chinois aussi, et des hindous, sans compter les nombreux produits résultant du mélange de ces trois races, soit entre elles, soit avec les blancs. Les hommes sont très polis. Quelquefois, je pense à l'expression « trop poli pour être honnête. Les femmes ont une démarche royale et beaucoup de goût pour s'habiller. Elles mélangent des tissus de différentes nuances sans faire de faute de goût. Malheureusement, elles gâtent un peu l'ensemble par une sale habitude qu'elles ont de se mettre complaisamment les doigts dans le nez. Les moutards sont éveillés, malins et mignon. Évidemment, ce n'est pas après 10 jours seulement que je peux espérer avoir une vue d'ensemble de la ville. Mais je peux déjà dire que ma première impression est excellente. Mes chers parents, je vous souhaite de continuer à bien vous porter et je vous envoie mes sincères et affectueuses amitiés à vous, au Los et au Bossir. Veuillez être assez aimable pour être mon interprète auprès des gens que j'ai connus et que vous aurez l'occasion de rencontrer dans notre bonne vieille ville, Pierre. Hanoï, le 22 avril 1946. Mes chers parents, votre dernière lettre date du 28 mars. Je n'ai rien reçu de vous cette semaine. Si je m'en souviens bien, il y a 8 jours de cela, je vous décrivais mes projets pour Pâques. Et je vous avouais par contre que l'imprévu et la variété de ma vie actuelle ne manquaient pas de charme. Mais autant ces projets faits alors ont pu être réalisés avec bonheur, autant l'imprévu et la variété tant vantés à ce moment-là ont été dépassés par des événements que je n'avais nullement souhaités. Hier, c'était Pâques à Hanoï, comme c'était Pâques dans le monde entier, comme c'était Pâques à Sainte-Adresse. Et je vous vois par la pensée, presque aussi nettement que si j'y étais, sortant de la grand-messe, passant chez Pierce chercher quelques gâteaux, un gros pour Antoine, puis réunis rue Marie-Talbot autour du poulet de la cousine et de la dernière bouteille d'entre-deux-mères que papa avait retrouvée au dernier moment, mais qui était quand même frappée à point dans un coin inexploré de la cave. Enfin réunis dans le salon et papa fumant le dernier cigare de la ration personnelle de Monsieur Carnet, Annette une cigarette roulée avec le tabac de Gérard, Antoine suçant un cigare en chocolat trouvé dans le jardin, apporté par les cloches, mais intact malgré son parachutage. Ici, nous avons eu aussi des œufs de Pâques que les Chinois nous ont distribués dans la rue gratuitement. Pourtant, la journée avait commencé sous les meilleurs auspices. Nous qui sommes pourtant à 30 jours de mer de France, nous étions vraiment très près de vous. Je vous l'assurais hier matin. Hier soir, par contre, c'était l'horrible guerre, dans ce qu'elle a de plus révoltante. Hanoï s'était mise en fête. Il faisait un coquin de soleil bien agréable. Et au sortir de la cathédrale, militaires rutilants dans leurs uniformes impeccables, civils ayant revêtu leur plus beau complet de shantung, moutards bichonnés, parfumés, raides de peur de se salir dans leur uniforme blanc, jeunes créoles charmantes dans leur robe à fleurs, anamites en tunique et pantalon multicolore, tout le monde remontait tranquillement la rue Colbert, profitant de la brise qui était douce le long du petit lac et de la quiétude d'un jour de fête. Vers midi, chacun rentra chez soi. Un de mes camarades et moi étions invités à déjeuner à l'Anamite chez des gens charmants que nous connaissons depuis notre arrivée. Nous commençons à être des experts des baguettes. Comme c'était fête, nous fîmes la sieste. Vers 3 heures, nous fûmes réveillés en sursaut par une fusillade nourrie. Mon camarade et moi firent rentrer les civils et nous installâmes en position défensive, son FM et mon parabellum prêts à faire feu. Une bonne heure plus tard, les derniers coups de feu s'étaient espacés. Puis, ayant complètement cessé, nous sortîmes dans la rue. Voilà ce qui s'était passé. D'abord, une banale collision d'automobiles, exploitée par les Chinois. L'incident est sur le point d'être réglé. À ce moment, débouchent en trombe plusieurs camions chargés de soldats chinois qui sautent à terre et sans aucun avertissement tirent à bout portant sur les soldats français, circulant sans armes, puisqu'ils étaient un jour de fête en permission dans le quartier européen. Sur les civils, les femmes et les enfants, puis sur les ambulances, les brancardiers et les infirmiers de la Croix-Rouge. Dans tous les quartiers de la ville jusqu'au faubourg au-delà du fleuve rouge, les garnisons chinoises tirent. Les soldats chinois du lieutenant-colonel Yu Tenxiao, embusqués dans des tranchées, aux fenêtres et sur les toits des maisons, font feu à qui mieux mieux. Les anamites leur donnent à certains endroits un sérieux coup de main. Enfin, les blindés de la 2e DB sortent, rétablissent l'ordre et le calme revient peu à peu. Ce matin, l'on comptait 12 tués et 20 blessés. L'état-major français a protesté officiellement contre cet acte de sauvagerie. Cet assassinat particulièrement ignoble. En vertu des accords de Chongqing, les Chinois auraient dû quitter la ville le 30 mars et ne plus intervenir dans le maintien de l'ordre. Mais une protestation, si énergique soit-elle, n'a jamais ressuscité des morts.
Lettre lue par Michel Lacaille et Marie Stepowski. Montage de l'émission réalisé par Alexis Dandievel.
Nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Des âmes.